Bienvenue dans ce deuxième épisode de Moutus et Bouches Décousues où nous parlons aujourd'hui de la motivation, celle de nos enfants, de nos ados, mais aussi de la nôtre. On entend régulièrement « il ou elle n'est pas motivé » comme si la motivation était un trait de personnalité. Alors qu'est-ce que la motivation? Quels sont les moteurs de la motivation? Existe-t-il plusieurs motivations? Et comment faire pour motiver l'autre? C'est ce que nous allons discuter dans ce deuxième épisode. À bientôt! D'où vient le mot motivation? Motivation viendrait du mot motivus en latin qui signifie mobile et movere qui signifie mouvoir. En d'autres termes, la motivation serait ce qui nous met en mouvement. C'est une force qui va nous donner l'élan, qui va nous inciter à nous mettre en action, va nous inciter vers un but et vers un mouvement. Cette motivation a à la fois un déterminant interne, mon intérêt, mon goût pour faire les choses, mon appétence, ma compétence, mais peut avoir également un déterminant externe. Quelqu'un me demande de faire quelque chose, quelqu'un me met la pression pour faire quelque chose, ou je ressens une pression de faire quelque chose. Il y a donc également une part environnementale. Ainsi, la motivation est une interaction entre une part de déterminant interne, de déterminant externe et d'environnement. Dans ce sens, considérant qu'elle est interactionnelle, on peut dire que la motivation est un processus. Un peu d'histoire. Le terme « motivation » est apparu au XXe siècle. Dès les années 1930, les dirigeants d'entreprise se sont longuement questionnés sur la façon de pousser encore plus les personnes à s'engager dans la tâche. Taylor, qui a donné son nom au taylorisme, pense que la motivation vient de la récompense et du salaire proportionnel au travail, abandonnant ainsi la motivation par la contrainte. Elton Mayo, en 1940, parle lui de la relation humaine et du facteur humain dans la motivation. La dynamique de groupe lui semble essentielle dans la motivation de ses employés. Le célèbre Maslow, en 1954, évoque le fait d'une motivation en fonction de la satisfaction des besoins. Nous serions donc motivés parce que nous satisfaisons à nos besoins physiologiques, de sécurité, nos besoins sociaux, nos besoins d'estime et nos besoins de nous réaliser. Si nous nous penchons maintenant sur le béhaviorisme dans les années 70, la motivation était parlée en fonction du renforcement. Pour les béhavioristes, tout est apprentissage. On apprend un comportement et on désapprend un autre comportement. En gros, entendons, nous apprenons un bon comportement et nous désapprenons un mauvais comportement. Il ne se préoccupe absolument pas ni des cognitions ni des émotions. Ainsi, tout bon comportement est lié à une récompense. La récompense indique donc, pour les béhavioristes, le bon mouvement, la bonne marche à suivre, et lorsque la personne ne suit pas le bon mouvement, elle est donc sanctionnée. Si pendant les années 70, donc, la motivation était liée à la récompense, un chercheur nommé Deci, américain, est venu éclater les certitudes. Dans certains cas, effectivement, il a montré que la récompense, bien au contraire, diminuait la probabilité du comportement et avait un effet négatif, contre-productif, sur la probabilité que le comportement se reproduise. Nommons par exemple une étude en Suède. Des femmes donnent leur sang. Elles sont motivées par un déterminant très intrinsèque, leur valeur de vouloir donner du sang, d'être altruiste. Ils ont séparé ces femmes en trois groupes. Dans le premier groupe, suite au don de sang, on a donné une certaine somme d'argent à ces femmes. Dans le deuxième groupe, on donnait une certaine somme d'argent, mais pour qu'ils le donnent à une autre association caritative. Et dans le troisième groupe, on ne donnait rien. On aurait pu s'attendre que dans le premier groupe, à la fois les femmes avaient une motivation interne, intrinsèque, et une motivation également externe, le fait de recevoir de l'argent. Or, c'est dans ce groupe que les femmes étaient le moins motivées et qu'elles ont le moins donné leur sang lors d'un deuxième épisode, comme si finalement la récompense avait annulé leur comportement de générosité et leur comportement altruiste. C'est ce qu'on peut appeler l'effet de sape de la récompense sur le comportement altruiste. Ces études sont venues donc jeter un pavé dans la mare. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Est-ce vraiment la récompense? Effectivement, la récompense peut donner l'idée du bon mouvement, du bon comportement, mais parfois, comme nous l'avons vu dans les études précédentes, elle peut anéantir le comportement altruiste. C'est là que deux familles de motivations ont donc été décrites. La première motivation décrite est celle qu'on appelle autocontrôlée ou étodéterminée. Elle vient d'un élan très spontané, elle vient de notre intérêt, de notre envie d'explorer, de notre besoin d'apprentissage, de nos intérêts, du fait d'être challengé. Elle est liée à nos valeurs, à l'expression de nos valeurs et à l'expression de ce qui compte pour nous. Elle fait intervenir également notre libre arbitre, elle exprime notre libre arbitre, elle est donc très naturelle et très spontanée. Le deuxième type de motivation est ce qu'on appelle la motivation contrôlante. Contrôlante parce qu'elle est contrôlée par quelque chose d'extérieur, une récompense ou une sanction, ou par une pression, comme j'en parlais en début, pression de la famille, pression de la société, pression de l'entreprise. Ainsi, ces deux motivations sont très différentes autour de la question du libre arbitre. Dans la première, j'ai le sentiment d'être libre, d'avoir choisi volontairement, adhéré et exprimé mon libre arbitre. C'est spontané, j'ai décidé de le faire, je suis motivée. Dans la deuxième, en revanche, je ne peux pas dire que j'ai été dans le libre arbitre. J'ai été contrôlée, j'ai somme toute accepté dans un deuxième temps de me motiver pour cette action. Mais il faut savoir que dans cette deuxième motivation, si on retire le contrôle, alors dans ces cas-là, cette motivation a tendance à diminuer et petit à petit à disparaître. L'autre point extrêmement important, c'est que la première motivation, qui est la motivation autocontrôlée, autodéterminée, qui vient donc d'un élan, d'un libre arbitre, ne peut pas se faire entraver. Elle ne peut pas se faire entraver et c'est ce que nous avons prouvé dans l'étude des femmes qui donnaient leur sang et à qui nous donnions une certaine somme d'argent. À partir du moment où un effet de contrôle arrive sur cette motivation autocontrôlée ou autodéterminée, alors cette première motivation est entravée à cause de la contrainte et la motivation disparaît. Quelle est l'importance également de cette motivation autocontrôlée, autodéterminée qui appartient au libre arbitre? C'est que dans une entreprise, elle peut protéger de l'épuisement professionnel. En effet, lorsque nous choisissons consciemment, nous adhérons, nous exprimons notre libre arbitre, nous faisons preuve d'une motivation liée à notre intérêt, notre plaisir, alors nous sommes moins sujets à l'épuisement professionnel. Et nous sommes en plus beaucoup plus performants, beaucoup plus enjoués, beaucoup plus productifs dans le bien-être. Mais alors, me direz-vous, si la motivation autocontrôlée, autodéterminante, a tendance à diminuer, voire à disparaître à chaque sentiment d'être contrôlé, de perte d'autonomie et de perte du libre arbitre, qu'en est-il alors de tous les environnements qui sont si contrôlants autour de nous, à commencer par l'école? Qu'en est-il de la motivation des enfants? Peuvent-ils apposer une motivation autodéterminée, autocontrôlée, ou est-ce une motivation contrôlante? Qu'en est-il des étudiants à l'université? Et qu'en est-il même de nous dans nos emplois? Faisons-nous preuve d'une motivation totalement autocontrôlée, autodéterminée, élan spontané, plaisir et intérêt? Ou sommes-nous, somme toute, dans une motivation contrôlante? Eh bien oui, la plupart du temps, nous sommes dans une motivation sous contrôle. Mais elle n'est pas négative en soi, parce qu'il est important, à chaque fois qu'une motivation est faite sous contrôle, sous contrainte, de voir surgir chez l'individu un élan, un intérêt, et donc la possibilité d'un choix, d'un libre arbitre, et donc de l'initiation d'une motivation autocontrôlée et autodéterminante. Revenons, avant de terminer cet épisode, sur le monsieur Maillot des années 40, lui qui questionnait le facteur humain comme essentiel à la motivation. Nous n'en parlons absolument pas, finalement, depuis le début. Or, il est important, et surtout pour les enfants et les adolescents, que dans cette question de la motivation vienne également la question du regard, la question d'être vu, la question d'être reconnu, la question d'être reconnu dans notre tentative de réussir, notre tentative d'essayer et notre possibilité également d'échouer. Il est vraiment important d'avoir en tête cette notion de la reconnaissance et du regard de l'autre qui va venir encourager et qui va favoriser un peu plus cette motivation et cette persévérance. C'est d'ailleurs, et pour finir, comme cela que nous accompagnons des gens, des patients, des clients autour de la notion de la motivation. Au départ, il s'agirait de susciter un plaisir ou un intérêt. En général, nous avons tendance à questionner la motivation à faire et à se mettre en mouvement et de questionner également tous les arguments qui viendraient aller à l'inverse de ce mouvement, ce qui ne nous motive pas. Qu'est-ce qui nous rend ambivalent dans ce mouvement et dans cette action? Nous laissons alors à la personne le pouvoir de décider. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Ce choix chez la personne est la première action vers son libre arbitre. Je choisis volontairement et avec les arguments, parce que j'ai travaillé sur mon ambivalence, de me lancer dans l'action. Je suis donc motivée, je suis dans une motivation autodéterminée, autocontrôlée. C'est important de laisser le patient justement dans cet libre arbitre. Parce que lorsque le thérapeute, le coach, le professionnel veut absolument donner des conseils, veut absolument surstimuler ou surmotiver le patient en ne l'envahissant que d'arguments positifs, il risque alors d'écraser le sentiment de liberté du patient et sous le trop de conseils, le patient va alors réagir et faire l'inverse de ce qui lui est demandé. C'est ce qu'on appelle l'effet de réactance. Ainsi, la première étape lorsque nous souhaitons motiver un patient, un client ou quelqu'un, c'est d'aller travailler sur son ambivalence. Le faire ou ne pas faire? Argument pour, argument contre, et de laisser le patient, le client ou l'enfant, l'adolescent, se démener, positivement et sympathiquement bien sûr, avec tous ces arguments. Une fois que la décision est prise et la motivation enclenchée, je suis décidé à le faire. Il faut alors définir des étapes, des micro-étapes, des pas après pas qui vont être facilement expérimentés par le patient, par le client, par l'enfant ou par l'adolescent en termes de ce qu'on appelle des bons coups. J'ai réussi, j'ai fait un bon coup. Et le patient, le client, l'enfant, l'ado, va pouvoir accumuler les bons coups et les réussites dans ce mouvement vers l'action. Ensuite, à chaque effort, à chaque bon coup, alors oui, effectivement, nous pouvons à ce moment-là renforcer positivement pourquoi pas par une récompense, comme le faisaient les behavioristes. Mais entendez bien que c'est lorsque la motivation autodéterminée, la motivation autocontrôlée qui part du patient et de son élan, quand cette motivation a été mise en route, que la mise en action est faite, qu'alors nous pouvons renforcer et aller du côté de la motivation contrôlante. N'oublions jamais qu'il est important de repérer chez le patient cette bascule vers la prise de conscience de son élan, d'un intérêt. Donc c'est vraiment valable surtout chez nos enfants et nos ados, nos ados que nous pouvons trouver de temps en temps si peu motivés, je le rappelle, ce n'est pas un trait de personnalité. En fait, il s'agit d'aller repérer le moindre mouvement, le moindre élan, le moindre plaisir, le moindre intérêt qui pourrait leur permettre de faire un choix pour les faire basculer dans cette motivation autodéterminée, autocontrôlée. Voilà, c'était le deuxième épisode de Moutus et Bouche décousue sur la motivation. N'hésitez pas à m'écrire comme vous le faites nombreux pour me demander des références bibliographiques et bien sûr pour me donner des idées pour le prochain épisode. À bientôt !